18h-20h,
votre grand journal du soir,
Thierry Dagiral.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. C'est le week-end, peut-être même les vacances pour vous. Ravi de vous retrouver pour ces deux heures d'infos. À la une de l'actualité ce soir, des tests généralisés à l'arrivée des pays à risque dans les aéroports. Déclaration de Jean Castex à Roissy, c'est l'information du soir que l'on détaille dans un instant dans votre journal. François Claus, bonsoir François.
Bonsoir Thierry, bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
18h20, nous sommes à presque 3h maintenant du coup d'envoi de la finale de la Coupe de France PSG Saint-Etienne, à suivre en direct ce soir sur Europe 1. Dans un stade de France quasiment vide certes, mais c'est le foot qui reprend officiellement et ça ravit l'un de nos quatre ballons d'or français, Jean-Pierre Papin, qui sera avec nous dans 20 minutes. 18h30, les grandes voix, on va parler de ce livre surprise de Nicolas Sarkozy en librairie aujourd'hui. Son contenu, ses révélations et son but. Est-ce que vous allez le lire? Je vous attends au 39-21. Bonsoir Marlène.
Bonsoir Thierry.
On est ensemble jusqu'à 20h, c'est votre grand journal du soir et on écoute Le Monde Changé sur Europe 1.
18h, bel été avec nous.
Les voyageurs seront tenus de disposer d'un test attestant qu'ils ne sont pas porteurs du virus.
Jean Castex annonce cet après-midi à Roissy un renforcement de l'arsenal de dépistage dans tous les ports et aéroports de France pour les voyageurs en provenance de 16 pays. Nous serons à Roissy dans un instant.
Sur le terrain, plusieurs signaux en Mayenne, en Nouvelle-Aquitaine ou en Catalogne témoignent d'une résurgence de l'épidémie.
Révélées par la presse, les conclusions du rapport de l'IGPN mettant en cause les policiers impliqués dans la mort du livreur Cédric Chouvia poussent l'avocat de la famille à réclamer ce soir leur suspension, nous l'entendrons. L'actualité de ce 24 juillet, c'est aussi une finale de Coupe de France au Stade de France. PSG Saint-Etienne, affiche brûlante, ambiance glaciale.
Ça va faire bizarre. Après, ils savent très bien que dehors, on est des milliers et des milliers de personnes à les suivre, mais nous, on est contents d'être là en tout cas.
Nous retrouverons Julien Froment devant le Stade de France.
Un écrivain nommé Sarkozy qui publie la chronique de ses deux premières années à l'Élysée et entame à Ajaccio cet après-midi une tournée des librairies de France à la rencontre de son public.
Je suis comblé. J'ai l'impression d'avoir vu le bon Dieu. Qui c'est qui ne le regrette pas? Tout le monde le regrette.
La bourse de Paris en train d'être baisse ce soir, moins 1,54% à 4956 points.
Et la tendance météo, Marlène Duret.
Alors le temps va se dégrader au nord-ouest, en cause d'une perturbation active qui se dirige droit sur la Bretagne et le Cotentin. On l'attend pour demain en seconde partie d'après-midi. Le quart sud-est et les régions du sud-ouest seront au soleil. Un point complet à la fin de ce journal.
Merci Marlène.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Thierry Dagiral, François Claus.
Deux mois et demi donc après l'annonce du déconfinement, le gouvernement décide aujourd'hui de renforcer l'arsenal de protection face à une épidémie toujours menaçante. À l'issue d'un conseil de défense, ce matin à l'Élysée, Jean Castex s'est rendu à l'aéroport de Roissy cet après-midi où vous vous trouvez pour Europe 1, Claudia Bertram, annonçant que les tests de dépistage seront désormais obligatoires pour les voyageurs en provenance des pays où le Covid est encore, Claudia, très vivace.
Oui, des tests obligatoires pour les voyageurs en provenance de 16 pays, parmi lesquels les États-Unis et l'Algérie. Le Maroc ne figure pas à ce stade dans la liste, mais c'est en discussion, indique Matignon. Les passagers devront disposer d'un test attestant qu'ils ne sont pas porteurs du virus, a expliqué Jean Castex, qui annonce aussi une généralisation des tests à l'arrivée.
Nous savons que dans un certain nombre de ces pays, il n'existe pas de stratégie de dépistage et que donc l'accès aux tests est difficile. En conséquence de quoi, nous avons décidé de généraliser les tests à l'arrivée.
Le dispositif sera totalement opérationnel au plus tard le 1er août et sera appliqué dans tous les aéroports français. Pour vous donner une idée, ici à Roissy, 3000 personnes seront testées par jour. Le Premier ministre a précisé que pour ces 16 pays, la frontière est actuellement fermée. Cela concerne donc des Français qui résident dans ces pays ou des citoyens de ces pays qui ont une résidence en France. Les passagers testés positifs seront placés en quatorzaine. Des dispositifs similaires seront mis en place dans les ports, a indiqué Jean Castex, qui a au passage recommandé aux Français d'éviter de se rendre en Catalogne.
Claudia Bertram en direct de l'aéroport de Roissy pour Europe 1.
Et ce nouveau dispositif se déploie parce qu'il y a de fait des signes d'une résurgence de l'épidémie.
Un millier de cas nouveaux recensés hier en 24 heures sur tout notre territoire. Le département de la Mayenne, qui est toujours placé en vulnérabilité élevée. Et puis la tranche d'âge des 15 44 ans, plutôt épargné, jusque-là beaucoup plus touché, selon l'étude qu'a menée ces dernières heures l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine. C'est clair, Johanna Chabas, la circulation du virus s'accélère.
Oui, depuis maintenant 3 semaines consécutives, le nombre de cas de Covid-19 augmente, les consultations chez SOS Médecins se multiplient, il y a aussi plus de clusters, plus de 200 sont recensés sur le territoire, un quart le sont dans l'ouest de la France, comme en Mayenne ou dans le Finistère. Alors les tests de dépistage sont également en hausse, ça c'est vrai, 3500 ont été faits la semaine dernière, mais les cas de Covid augmentent eux encore plus vite. Selon les experts, la faute est en fait au relâchement des Français dans l'application des gestes barrières, comme l'explique Jean-Paul Stahl, professeur infectiologue au CHU de Grenoble.
Il n'y a pas de mystère. C'est vraiment les individus qui portent le virus. Donc si on multiplie les contacts et les occasions de transmettre, bien évidemment, on aura multiplié le nombre de cas. Et malgré cette limpidité, on voit un relâchement, alors qu'on peut comprendre, parce que c'est jamais drôle. C'est une contrainte, mais c'est une contrainte qui évite à une partie de la population un séjour en réanimation, ce qui n'est quand même pas anodin.
Il alerte face au risque de seconde vague et ce qui inquiète surtout, c'est que l'augmentation des cas touche maintenant toutes les tranches d'âge. La Direction générale de la Santé appelle les Français à se faire dépister au moindre symptôme pour empêcher l'épidémie de rebondir.
Les précisions signées Johanna Chabas.
Et la situation épidémique en France, le relâchement des comportements, nous évoquerons bien sûr toutes ces questions avec Axel Kahn, le médecin généticien qui sera mon invité tout à l'heure à 19h20.
Et l'OMS, Thierry, exprime ce soir également son inquiétude face à cette résurgence de l'épidémie de Covid en Europe. L'Europe où le port du masque s'est maintenant généralisé, obligatoire en Angleterre, en Autriche, en Belgique, dans tous les lieux clos ces dernières heures. Pendant ce temps-là, c'est le continent américain qui est le plus touché par l'épidémie, avec 8 millions de cas recensés.
François, c'est traditionnellement l'un des grands moments dans une saison de foot, la finale de la Coupe de France.
Et c'est en plus cette année une affiche particulièrement alléchante entre deux monuments du foot français, Paris Saint-Germain face à Saint-Étienne. Mais voilà, le Covid est passé par là et c'est même un miracle que cette finale ait finalement lieu. Elle va se dérouler dans un climat très particulier, 5000 personnes dans un stade de 80 000 places. Pas de supporters stéphanois. Julien Froment, vous êtes devant le Stade de France pour Europe 1. Et on imagine, Julien, que l'ambiance est bien différente de celle que l'on ressent traditionnellement à 2h30 d'un tel événement.
Oui, écoutez François, pour être tout à fait franc, j'ai vu plus de monde aller au magasin de bricolage à côté du Stade de France que de supporters sur le parvis. D'ailleurs, les bars sont désespérément vides, même si on entend de la musique pour un petit peu cacher, entre guillemets, la misère. Pas de marée verte ni de marée rouge et bleue. J'ai quand même croisé 2-3 fans. Jérémy est pour le PSG. Il accepte avec fatalisme cette situation.
Ça va faire bizarre. Après, qu'on soit 1000 ou qu'on soit... Ils savent très bien que dehors, on est des milliers et des milliers de personnes à les suivre. Donc voilà, ça ne posera pas de problème. Mais nous, on est contents d'être là en tout cas.
Quant aux Stéphanois, ils ont boycotté la finale, mais quelques irréductibles sont quand même venus. C'est le cas de Sébastien.
C'est très spécial, ouais. C'est une année spéciale, hein, du coup. On avait vécu la finale de la Coupe de la Ligue avec tous nos supporters. Et ça, c'était extraordinaire, quoi. Cette année, ça va sonner creux, mais bon, on fera avec.
Une finale particulière avec masque et gestes barrières pour tous, même pour le président de la République qui ne remettra pas ce soir, comme le veut la tradition, la coupe. Mais ce sera le capitaine vainqueur qui ira la récupérer sur une stèle, une coupe désinfectée et donc récupérée par le capitaine vainqueur du match ce soir.
Merci Julien Froment du service des sports d'Europe 1 et évidemment PSG Saint-Etienne en direct en intégralité sur Europe 1. Émission spéciale à partir de 20h avec Lionel Rousseau. Coup d'envoi du match 21h10.
Puis notez, restez avec nous dans un instant. Jean-Pierre Papin sera mon invité dans 10 minutes. Que les policiers impliqués dans la mort de Cédric Chouvia soient suspendus, c'est ce que demande ce soir la famille.
Après les révélations du journal Libération, du site Mediapart, rendant publiques les conclusions menées par les inspecteurs de l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, qui avait conclu que l'un des agents lors du contrôle routier avait bel et bien procédé à cette prise de l'étranglement arrière sur la personne du livreur, ce que les policiers jusque-là n'avaient jamais déclaré. Après ces révélations accablante, la famille de la victime a écrit au président de la République et les policiers impliqués ne peuvent pas continuer à exercer leur métier, martèle l'avocat de la famille Chouvia, Maître Bringart.
L'objectif de ce que nous sollicitons aujourd'hui, c'est pas de porter atteinte à la présomption d'innocence de ces policiers, parce que, comme n'importe quel justiciable, ils doivent pouvoir être en mesure, en capacité, de préparer des arguments de défense et de les faire valoir devant les juridictions. Maintenant, il y a quand même un principe de réalité, c'est qu'au-delà de ce qui concerne le débat sur les qualifications pénales et au-delà du débat sur la responsabilité pénale, on a un certain nombre d'enregistrements audio, vidéo, qui montrent la brutalité de cette interpellation. On a des conclusions du rapport d'autopsie qui montrent qu'il y a eu une fracture du larynx. Et donc, à l'évidence, on n'était pas dans un exercice normal des fonctions. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas surtout tolérer que des policiers puissent continuer à exercer impunément sur la voie publique, alors même qu'ils sont à l'origine du décès d'un homme. Ça, c'est inacceptable.
Maître Bringart, l'avocat de la famille Chouviat, interrogé par Salomé Legrand.
Europe 1.
18h09, à suivre Thierry Dagiral.
Dans un instant, un écrivain nommé Sarko, après le succès éditorial de Passion, Nicolas Sarkozy, raconte son quinquennat dans le temps des tempêtes. Il était à Ajaccio à la rencontre de ses premiers lecteurs. Europe 1 y était. A tout de suite.
Europe 1.
Europe 1. 18h11, la suite du journal sur Europe 1, François Claus, Thierry Dagiral.
Et ce sera peut-être le best-seller de l'été. Ça s'appelle Le temps des tempêtes.
Et c'est signé d'un certain Nicolas Sarkozy. 523 pages écrites durant les semaines du confinement, chronique des deux premières années de son quinquennat. Le précédent livre, souvenez-vous, de l'ancien président de la République, Passion, s'était vendu à plus de 300 000 exemplaires. Nicolas Sarkozy entamait aujourd'hui un tour de France des librairies. Première étape, l'espace culturel du Leclerc d'Ajaccio, où vous vous trouvez en ce moment même. Pour Europe 1, Caroline Baudry.
Oui, François, et la séance dédicace finit à l'instant. Plus de 600 personnes ont défilé devant l'estrade où était installé Nicolas Sarkozy. Écoutez, Eric, sur place depuis midi, il est le premier ici à s'être fait dédicacer son livre.
Pour Eric, bien cordialement, je suis comblé. J'ai l'impression d'avoir vu le bon Dieu. Qui c'est qui ne regrette pas ?
Tout le monde le regrette. Le départ de Nicolas Sarkozy, poursuit-il. Ajaccien, il se réjouit que l'ancien président ait choisi sa ville pour la première séance dédicace. Un moment privilégié pour Stéphanie, sarkoziste de la première heure.
Il a été très gentil. J'ai passé un très bon moment. J'ai quand même voté pour lui 4 fois. Pour moi, c'était un très bon président. Je pense qu'il aurait certainement mieux géré la crise du Covid que M. Macron.
Et justement, sur la crise, même en pleine séance dédicace, Nicolas Sarkozy s'est exprimé sur le sujet.
Je trouve que les décisions récentes et les nominations récentes vont dans le bon sens. Je suis très soulagé qu'il y ait eu un accord européen. Et je trouve que cet accord va dans le bon sens. Et je pense qu'on ne mesure pas ce qu'auraient été les conséquences s'il n'y avait pas eu d'accord.
Avant d'ajouter que la vie politique était bien désormais derrière lui.
Merci Caroline Baudry en direct d'Ajaccio.
Et on va parler bien sûr de ce livre surprise dans les grandes voies dès 18h30. Est-ce que vous allez l'acheter ce livre ? 39-21 pour nous le dire. C'est le week-end, c'est les vacances peut-être pour vous. Troisième week-end de grand départ en vacances. Un conseil, ne manipulez pas votre téléphone en conduisant.
Et oui, si nous formulons ce conseil, c'est que l'Association des sociétés d'autoroute a mené une grande enquête. Un automobiliste sur trois en France admet qu'il n'hésite pas à utiliser son portable tout en conduisant. C'est même devenu la troisième cause de mortalité après la fatigue, les abus d'alcool. Et l'interdit, vous êtes à l'occasion de ces grands départs sur une aire de repos de l'autoroute A10, non loin de Bordeaux. Vous confirmez ?
Effectivement, avec le smartphone à portée de main à côté de la boîte de vitesse ou qui fait office de GPS, la majorité des automobilistes avouent non sans vergogne être attirés par leur écran. En répondant aux appels en kit main libre, Frédéric, qui roule vers le Pays Basque en famille, est pourtant bien conscient du risque qu'il prend.
Ah oui, je réponds au téléphone de temps en temps, mais je m'aperçois que quand la conversation dure trop longtemps, je vois que mon attention diminue par rapport au véhicule qui passe, même s'il y a un obstacle, tout ça, je le sens tout de suite en fait.
Et ce sont souvent les automobilistes les plus jeunes qui se sentent obligés de jeter un coup d'œil à leurs notifications, de répondre aux sollicitations. Même au volant, Léa, 24 ans, pianote sur son portable.
Mes textos, je regarde toujours pour voir si c'est important ou autre. Alors, je sais que c'est pas bien, mais c'est arrivé de répondre de temps en temps. Après, c'est simplement une réponse très brève. Ça peut être dangereux, on le sait, mais des fois, c'est plus fort que moi.
Répondre à un SMS prend au moins 15 secondes, un laps de temps pendant lequel on parcourt 500 mètres à 130 km/h. Voilà pourquoi Héloïse, elle, s'interdit le moindre écart.
Enfin, j'ai mon père qui est pompier. Du coup, ça a fait réfléchir quand il revient d'intervention sur des jeunes qui ont utilisé leur téléphone. Ça peut être super dangereux.
Alors, pour changer de direction sur le GPS ou changer la musique, elle compte sur ses amis copilotes qui, pendant la route, ont tous les droits sur son smartphone.
Merci Hélène Terzian. Conduisez pas en envoyant des SMS. Prudence. Voilà.
Merci, c'était le journal de François Claus. Retour de François à 18h30 pour le rappel des titres. Et la météo. Marlène, le temps se dégrade par le nord-ouest demain.
Oui, beaucoup de nuages arrivent de l'océan et annoncent l'arrivée d'une perturbation pluvieuse pour demain après-midi, en arrosant au passage la Bretagne, le littoral normand, avant de s'enfoncer plus franchement dans l'intérieur des départements côtiers en seconde partie d'après-midi. Et de bonnes pluies hein, qui peuvent devenir orageuses vers le Cotentin. Cette perturbation active, eh bien, elle va continuer de traverser le pays en direction de l'Île-de-France et même du Grand Est. Dans la nuit de samedi à dimanche, on attend de bons cumuls au nord de la Seine. Et avant qu'elle n'arrive véritablement, cette perturbation, eh bien, le quart nord-ouest et le long de la frontière belge, et bon, là, on va se réveiller sous un ciel gris demain matin avec quelques gouttes possibles. Pas de pluie en revanche, mais un ciel changeant en remontant du bassin d'Arcachon vers la région centre et le quart nord-est. Et puis dans les régions méridionales, ce sera un samedi calme et beau. Le vent d'ouest restera sensible. Un mot des températures quand même. Les minimales afficheront 12 à 17 degrés en général, avec des pointes à plus de 20 degrés en bord de Méditerranée. Et puis les maxis, bon, ça évolue peu par rapport à aujourd'hui. On prévoit 34-35 degrés à Orange, 33 à Marseille, 32 à Perpignan, 31 à Dijon, Strasbourg, Grenoble, 30 degrés à Ajaccio, 28 à Cannes comme à Paris, 26 à Lille, 25 à Biarritz, 24 à Rennes, 23 degrés à Royan et pas plus de 20 degrés à Brest.
Et la météo des plages à 18h30.
Europe 1. C'est le grand journal du soir avec vous Thierry Lagiral et dans un instant, votre premier invité.
Et il a vécu ce frisson de la finale d'une Coupe de France 1989, rappelez-vous Marseille-Monaco, avec 3 buts signés Papin. Soirée spéciale ce soir sur Europe 1 pour suivre ce PSG Saint-Etienne au Stade de France. On en parle avec Jean-Pierre Papin dans 2 minutes.
Europe 1.
Jusqu'à 20h, c'est le grand journal du soir avec vous, Thierry Dagiral. Et soirée spéciale finale de la Coupe de France de foot ce soir sur Europe 1. Thierry, vous recevez l'ancien joueur international, Jean-Pierre Papin.
Bonsoir Jean-Pierre Papin.
Bonsoir.
L'un de nos 4 ballons d'or français, on est ravis de vous entendre sur Europe 1 à moins de 3h maintenant de cette finale de la Coupe de France. Premier match officiel en France depuis 4 mois. Une énorme envie titrée ce matin l'équipe. Vous regarderez ce soir ?
Certainement, oui, parce que d'abord, c'est la finale de la Coupe de France, et c'est un moment important dans la saison. Et puis parce que c'est un peu le retour du football sur la télévision avec notre pays. Donc, c'est quelque chose qui va être important pour nous.
Finale idéale, mais quand même un Stade de France qui ressemblera quand même à une coquille vide. C'est un peu triste, ça.
Oui, c'est un peu triste, bien évidemment, mais bon, vu les circonstances, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important, à laquelle on doit faire face, on doit être conscient. C'est déjà bien qu'on puisse recommencer le football.
Bien sûr.
Maintenant, il faut prendre juste le temps de que les choses se règlent, même si certainement ça sera plus long que prévu. Mais bon, l'important aujourd'hui, c'est que les équipes puissent rejouer et de nouveau s'affronter comme il se doit.
Jean-Pierre Papin, vous comprenez, vous, les ultras stéphanois, parisiens également, qui boycottent la rencontre ?
Ben, on peut comprendre, parce que quand on est supporter, on se doit d'être là pour ce genre de match. Mmh. C'est vrai que c'est interdit, ou alors c'est vraiment très réduit. Je comprends qu'on ne soit pas content. Maintenant, sincèrement, il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie qu'un match de football. Mmh. Il faut juste faire avec pendant quelques temps et espérer que ça se passe très vite. Mais je peux comprendre, parce que quand on est supporter et qu'on n'a que ça, ouais, c'est important.
PSG Saint-Etienne, c'est quand même deux mondes, même si bien sûr ce sont deux clubs avec une immense histoire.
Oui, bien évidemment, ce sont deux clubs avec une immense histoire qui ont remporté à maintes fois la Coupe de France.
Ouais.
Maintenant, aujourd'hui, c'est sûr que ça paraît un peu déséquilibré, surtout quand on voit le PSG dans sa formule actuelle.
C'est ça.
Tout simplement impressionnant.
Ouais.
Maintenant, c'est un match de football. Hein. C'est un match de football, tout peut arriver.
Ouais.
Quelquefois, on a l'impression que tout est fait d'avance et puis on tombe sur un os. Donc,
ouais.
Espérons que ce soir, Saint-Etienne sera un os pour le PSG. Ce sera difficile, mais bon,
ouais,
peut-on rêver encore un petit peu.
Côté PSG, on a bien sûr le duo Neymar-Mbappé en grande forme. On l'a vu dans les matchs amicaux. C'est quand même un duo qui est impressionnant, quoi, qui fait peur.
Oui, c'est un duo qui fait peur. Maintenant, je dirais que c'est pas que le duo, c'est le collectif parisien,
ouais,
qui est juste pléthorique, impressionnant.
Ouais.
Voilà, c'est une équipe qui va briguer pour être champion d'Europe. Donc, ce match de Saint-Etienne, ça doit juste être une épreuve pour eux, à laquelle ils doivent faire face, parce que ça sera pas si simple que ça. Mais bon, Paris est sincèrement largement favori. Quoi.
Kylian Mbappé qui a annoncé qu'il restait au PSG l'an prochain. Même si le Real reste quand même à l'affût. Vous en pensez quoi ?
Je pense que c'est une bonne nouvelle pour le football français, que les joueurs français veuillent rester en France. Maintenant, quand on est au PSG, sincèrement, qu'est-ce qu'on peut espérer trouver ailleurs ? C'est déjà le gratin du football mondial, donc c'est aussi bien de sa part de vouloir pérenniser un petit peu cette marque PSG. Mmh. Il a montré qu'il était capable de faire beaucoup de choses. Voilà, maintenant, il faut juste continuer, quoi.
Jean-Pierre Papin, vous l'avez gagné avec Marseille, hein, cette fameuse Coupe de France. Marseille-Monaco, on s'en souvient, 1989. Ouais. 4-3 pour Marseille. Et puis, 3 buts signés Papin.
Oui, c'est vrai que c'est un des meilleurs souvenirs. Ouais. Un des meilleurs souvenirs de ma carrière. C'était le match.
Vous y pensez souvent ? Vous y penserez ce soir ?
Non, j'y pense pas ce soir. Je vais regarder juste une finale de Coupe de France. Voilà, le passé reste le passé. C'est bien de l'avoir vécu, c'est bien de l'avoir gagné. Ouais. Maintenant, voilà, les nouvelles générations sont là aussi pour faire avancer les choses. Kylian a montré à maintes fois qu'il était capable de faire beaucoup de choses. Mmh. Voilà, après, son problème maintenant, c'est qu'il faut, confirmer et toujours confirmer. Quelquefois, ce n'est pas si simple que ça.
Vous qui êtes passé par là, ça fait quoi de gagner cette Coupe de France ?
C'est juste le rêve de gamin. Moi, ouais. C'était un rêve de gamin. Ouais. J'en avais tellement vu à la télé. Ouais. J'avais tellement imaginé un jour pouvoir aller la chercher. Que voilà, le jour c'est arrivé, c'était juste un rêve de gamin qui se réalisait.
Jean-Pierre Papin, la prudence de Noël Le Graët, le président de la fédération, vous la comprenez par rapport au Covid ? Il a pris les bonnes décisions selon vous ?
Quand il s'agit de pandémie comme c'est le cas aujourd'hui, de la vie des gens, je pense qu'il a pris la bonne décision. Maintenant, il faut juste savoir l'accepter. C'est le problème en France, c'est qu'on n'accepte pas souvent les règles.
C'est vrai.
Il faut juste aujourd'hui. Passer un mauvais moment, parce que c'est un mauvais moment de ne pas pouvoir aller au stade, de ne pas pouvoir être en groupe, de ne pas pouvoir aller voir l'équipe qu'on admire. Mais bon, le football, c'est une chose, mais la vie, c'est beaucoup plus important. Et je pense que les décisions ont été prises de telle façon qu'on essaie de les respecter. Et, je pense qu'on l'a bien fait. Il faut continuer.
Mais même si les championnats européens, eux, ont tous repris, à huis clos, certes, chez nous, le championnat, c'est carrément stoppé, quoi.
Oui, non, mais bon, là aussi, il fallait prendre une décision à un moment donné. Elles ont été prises. La seule chose qu'on peut regretter, c'est qu'on ne s'est pas donné l'occasion de, au cas où ça aille mieux, qu'on puisse revenir. On a pris une décision ferme. Sincèrement, l'un ou l'autre, pour moi, ça m'allait très bien. Ouais. À partir du moment où on prend une décision, il faut la respecter. Ailleurs, ils ont voulu faire autrement. Ils ont fini les championnats. C'est bien aussi parce que ça permet d'aller au bout des choses.
Exact, mais, c'est ça.
Sincèrement. Sincèrement, voir des stades vides aujourd'hui, c'est triste, je trouve.
Jean-Pierre Papin, en tout cas ce soir, c'est un premier pas, c'est le foot français qui redémarre. Avant Lyon, le 31 juillet prochain, en Coupe de la Ligue, c'est un peu une répétition générale finalement pour le PSG.
Oui, c'est une répétition générale, sachant quand on voit les matchs amicaux du PSG, c'est juste tout à fait impressionnant. Oui. Maintenant, ce sont des matchs amicaux, un match à enjeu, c'est complètement différent. Il y aura beaucoup plus certainement d'adversité en face, d'agressivité. Bon, Paris est apte à tout, il n'y a pas de souci, on connaît l'effectif. Mais bon, un match de coupe, ça reste un match de coupe, on ne sait jamais.
Ouais. Et après 4 mois de coupure, ça rend le match un peu plus incertain, ça va être dur ?
Ben, je dirais que ça dépend avant tout du PSG, à partir du moment où ils ont décidé, eux, d'accélérer, de montrer qu'ils sont meilleurs. Certainement, ils seront meilleurs. Ouais. Maintenant, je vous dis, un match de foot, on ne l'a jamais gagné à l'avance. Il y a toujours des impondérables. Espérons que Saint-Etienne sera un gros impondérable aujourd'hui.
On va regarder ça. Un mot de vous, Jean-Pierre Papin, pour terminer, entraîneur de Chartres en National 2. Ça y est, vous avez repris. Hein. Vous êtes retombé
dedans. Oui, j'en avais besoin.
C'est vrai
parce que, ouais, j'en avais besoin. Il fallait que je retrouve un challenge, il fallait que je retrouve un banc. Une équipe, pouvoir être tous les jours fouler ce terrain que j'aime tant.
Ouais.
Voilà, j'ai trouvé un beau challenge. Maintenant, à moi aussi de relever le challenge et de passer le cap.
C'est ça. Et vous ne l'aviez pas entraîné depuis quoi ? De 2015, c'est ça ?
Depuis 2011.
2011, ah oui ! Donc là, il fallait absolument reprendre. La condition physique est toujours là, ça va ? L'envie, en tout cas, est là.
Non, la condition physique, il n'y a pas de souci. l'envie, il n'y a pas de problème. Après, voilà, je n'ai pas de baguette magique et il faut que mes joueurs aillent le plus loin possible pour essayer de remporter ce challenge qui est important pour ce club, c'est-à-dire monter au-dessus.
Parfait. Soirée spéciale, bien sûr, dès 20h sur Europe 1. Match à suivre en direct à 21h. Un vraiment très grand merci à vous, Jean-Pierre Papin. Merci beaucoup.
Je vous en prie, avec plaisir. Merci à vous.
Europe 1.
Vous écoutez le grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h. Thierry Dagiral, après le rappel des titres et la météo des plages, vous accueillerez nos grandes voix.
Et ce soir, autour de la table, Karl Meus du Figaro Magazine et Philippe Mabille de la Tribune. On va parler de ce livre surprise de Nicolas Sarkozy en librairie aujourd'hui. Vos questions, vos réactions au 39-21.
Il est 18h30, le grand journal du soir, la suite sur Europe 1, Thierry Dagiral.
Avec l'essentiel de l'actualité, François Claus.
Le Premier ministre Jean Castex annonce à Roissy cet après-midi, à l'issue d'un conseil de défense à l'Élysée ce matin, que les tests de dépistage deviennent désormais obligatoires dans tous les ports et aéroports de France pour les voyageurs en provenance de 16 pays où la circulation du virus est encore très active, notamment les États-Unis, mais aussi l'Algérie, Israël, la Turquie, le Brésil et l'Inde notamment. Le gouvernement français qui déconseille également fortement aux touristes de se rendre aujourd'hui en Catalogne. Du rififi à la mairie de Paris, la maire Hidalgo saisit la justice pour graves injures publiques, attaquant ainsi les deux élus écologistes féministes de sa propre majorité qui ont poussé hier l'adjoint à la culture Christophe Girard à la démission. Elle lui reprochait son soutien trop actif à l'écrivain Gabriel Matzneff sous le coup d'une enquête pour viol sur mineur. Dès 20h sur Europe 1, coup d'envoi à 21h10, le Stade de France avec la finale de la Coupe de France entre Paris Saint-Germain et Saint-Etienne. Mais 5000 personnes, pas une de plus dans le stade, ça veut dire un siège sur 20 occupé dans le stade. Révélées par la presse, les conclusions du rapport de l'IGPN mettant en cause les policiers impliqués dans la mort du livreur Cédric Chouvia poussent ce soir l'avocat de la famille à réclamer leur suspension. La Bourse de Paris entre nette baisse, moins 1,54% à 4 956 points.
Merci beaucoup François, édition complète à 19h. La météo des plages.
La Méditerranée sera sous le soleil demain, Thierry. Bien. Que vous soyez sur l'île de Beauté, la Côte d'Azur ou les plages du Roussillon. Indice UV 8 à 9, pas de chaleur excessive sur le sable. 28 degrés à l'ombre à Nice, aller jusqu'à 32 à Marseille, où la mer sera peu agitée. En revanche, près du Var, là, ça va. J'allais dire, il va y avoir pas mal de vagues. La mer sera agitée. L'Atlantique Sud profitera également d'un joli samedi ensoleillé, en particulier sur la côte basque. Pas de grande différence de température entre le moment où vous plongerez dans l'eau et le moment où vous regagnerez votre serviette. 22 degrés en moyenne et la mer sera belle. Ce ne sera pas le même décor en revanche pour l'Atlantique Nord, avec une situation qui se dégrade. Passez la Rochelle, nuages et averses au menu. Remettez la bronzette à plus tard du côté de la Bretagne. C'est carrément couvert jusqu'à la côte fleurie, puisqu'on sera sous la perturbation en fin d'après-midi.
Merci Marlène.
Et c'est l'heure à présent de décortiquer l'actu Thierry Dagiral avec nos grandes voix. Ce soir, Karl Meus, rédacteur en chef du Figaro Magazine, et Philippe Mabille, directeur de la rédaction de La Tribune.
Bonsoir à vous deux, messieurs.
Bonsoir.
Merci d'être sur Europe 1 ce soir. On va parler exclusivement pendant une demi-heure du cas Nicolas Sarkozy. Avec ce livre surprise, Le temps des tempêtes, c'est sorti aujourd'hui aux éditions de l'Observatoire. Karl Meus, on est ravis de vous avoir avec nous parce que vous êtes l'homme qui avait vu l'homme.
Entre autres, oui, on était plusieurs de la rédaction du Figaro Magazine.
Pour le Figaro Magazine, donc vous allez pouvoir nous raconter un peu vos échanges avec Nicolas Sarkozy. Il faut bien dire que ce livre s'arrête juste avant la crise de 2008, donc un an après son arrivée, un an et demi après son arrivée à l'Élysée. Pourquoi ce livre ? Il prend la plume le 15 mars précisément, il écrit tous les matins, Catherine nous le disait ce matin, à 6h30. Pourquoi ce livre surprise ? Inattendu ?
Alors, il est inattendu parce qu'il n'était pas programmé et que personne ne l'attendait, mais il n'est pas surprenant au sens où Passion racontait son histoire et qu'il s'arrêtait au moment où il gagnait la présidentielle. Et donc, la logique était qu'il y ait une suite. Et elle est là. Pourquoi maintenant, au fond, tout est dans le titre, Le temps des tempêtes.
Ouais.
Il résume ses deux premières années de quinquennat à comment j'ai géré des crises. Alors, des crises internationales, la Géorgie, la crise des subprimes, des crises nationales liées aux réformes qu'il a voulu passer, sur lesquelles d'ailleurs il dit « moi, j'ai pas reculé », et puis des crises plus personnelles. Et vous suivez son regard, non ? Moi, je sais gérer des crises, je sais gérer des tempêtes, je m'en suis bien sorti.
C'est ça.
Voilà.
Il y a moi et les autres. Et tout de même, quand même, Philippe Mabille, il y a des similitudes, je trouve, entre Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron. On va en parler longuement tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec une campagne très forte, avec des promesses. Et puis, d'un coup, il y a une crise. La crise de 2008 pour Nicolas Sarkozy, la crise des Gilets jaunes pour Emmanuel Macron. Ça vient tout perturber, finalement, les promesses de campagne.
Absolument. On peut faire ce parallèle, effectivement. Il faut se souvenir qu'Emmanuel Macron a été élu sur une promesse,
la rupture, ouais. Vous vous souvenez ?
On va en parler.
Puis il y a un côté Macron avant Macron, puisqu'il voulait faire l'ouverture. Ouais. Vous vous souvenez de cette phrase de Patrick de Védjean, feu Patrick Védjean, qui disait il était pour l'ouverture à condition qu'elle aille jusqu'au sarkozyste. Il avait vraiment essayé de renouveler déjà la vie politique. Ouais. Et puis, effectivement, chez Nicolas Sarkozy, il y a deux temps. Alors, dans le livre, on ne saura pas la deuxième partie, puisqu'on le saura peut-être au troisième livre. On peut s'attendre, ce ne sera pas une surprise. Ça. Déjà, Passion, l'an dernier, il était un petit peu surprise. Là, celui-là, il est un peu. C'est les mémoires Nicolas Sarkozy. Donc, il avait fait cette fameuse loi TEPA, vous vous souvenez, sur travail, emploi, pouvoir d'achat. Ouais. Et c'était vraiment la grande politique économique libérale de rupture, qui avait d'ailleurs plutôt bien marché, un peu comme Macron, avec sa politique de rupture et assez libérale, avait réussi à faire baisser le chômage, il faut même le reconnaître. Mmh. Et puis patatras, Sarkozy, la crise de 2008, et Macron, crise des gilets jaunes, le Covid. Il faut réinventer la politique.
Et puis pour Nicolas Sarkozy, il y a les petites phrases qui sont venues finalement polluer son message. Là, regardez, c'était le 6 novembre 2007. On est 6 mois après son élection. On est au Guilvinec avec des pêcheurs en colère.
Il est temps de faire quelque chose.
Nous, mais c'est toute la France. C'est toute la France qui crève.
Et pourquoi je ne suis pas là? Je suis là. Alors attendez. Eh bien oui, écoutez, il y a les autres, ils n'avaient qu'à venir avant. Ils ne venaient pas. Moi, je viens. Descends, on peut le dire. Descends un peu. Si tu crois que c'est en insultant que tu vas régler le problème des pêcheurs.
Karl Meus, il y a des choses qu'un président ne doit pas faire, ne doit pas dire.
Oui, d'ailleurs il le reconnaît un peu dans le livre, il reconnaît que sur la forme, c'était peut-être pas l'idéal.
Mais ça vient casser le message également. Ça
oui, mais il ne renie pas ouais. ce qu'il a voulu faire. Parce que, et ça qui est intéressant dans le livre, c'est qu'il replace tout dans son contexte. Alors évidemment, c'est sa vision à lui, évidemment il se donne le beau rôle, mais il dit, voilà, moi j'étais sur la route des États-Unis, et eh bien j'ai voulu m'arrêter ouais. Au Guilvinec, je ne pouvais pas comme ça tout de suite aller aux États-Unis sans faire une halte à cet endroit, c'était important de m'adresser à eux. Et évidemment, alors on ne l'entend pas dans le sonore, ou très fugacement, il y en a un marin sur Bastingage ouais. qui commence à lui dire « enculé ». Et voilà, lui, il réagit, mais au fond, il réagit comme nous, on aurait peut-être réagi aussi. Sauf qu'il est président de la République, et comme vous dites, il ne devrait pas dire ça.
Philippe Mabi, il y a plein de petites phrases comme ça, par exemple sur l'environnement. L'environnement, ça commence à bien faire. Voilà, il dit ça, et puis il y a les faits, c'est-à-dire que, mine de rien, si on veut être honnête, il y a eu le Grenelle de l'environnement. Il a agi pour l'écologie.
Absolument, et c'est d'ailleurs assez intéressant, parce que déjà, il avait signé le pacte de Nicolas Hulot, donc c'est toujours Macron avant Macron, même si les promesses sont difficiles à tenir. Alors cette phrase, effectivement, sur l'écologie, elle a marqué, parce que Nicolas Sarkozy, il a toujours été un peu écartelé entre l'économie, hein, il a quand même ce côté un peu libéral, mais un peu comme Macron aussi, un peu étatiste. Hein, quand les temps deviennent durs, d'ailleurs, on voit bien que les deux hommes, qu'on prenait pour des libéraux, deviennent souverainistes, deviennent étatistes ou interventionnistes. Sur la crise de 2008, il ne le raconte pas dans ce livre, mais nous, on le sait, il a été extrêmement interventionniste. Il a d'ailleurs été amené à renoncer à un certain nombre de choses de sa politique. Et donc, c'est quelqu'un qui veut aussi montrer sans doute son côté pragmatique. Ouais. Et puis, le côté capitaine tempête, hein, on l'a dit tout à l'heure avec Karl Meus, il a l'expérience et c'est un message subliminal qu'il adresse probablement à l'opinion en ces temps troublés.
On tourne les pages avec vous, Karl Meus. Il y a le Sarkozy qui torpille. Jean-Louis Debré, son ennemi chiracien, en prend pas mal. Ouais. François Bayrou, Daniel Cohn-Bendit, Laurent Fabius, à qui il dit, il écrit, hein, il fait partie des gens qui croient que tout leur est dû. Oui. Il règle ses comptes aussi à travers ce livre.
Oui, il règle des comptes, alors avec évidemment François Bayrou, qui ne l'a jamais soutenu, donc il dit il trahira tout le monde parce que c'est dans sa nature. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit c'est pas le personnage en lui-même qui l'intéresse, mais la récurrence que l'on trouve dans les ouvrages français. Donc c'est ce personnage du traître qui, à la fin, même s'il soutient quelqu'un, ne peut pas s'empêcher, le scorpion sur le dos de la tortue. Laurent Fabius, là, c'est parce qu'ils ne sont pas du même camp, évidemment. Il raconte cette anecdote où Laurent Fabius vient le voir pour se féliciter de cette réforme fabuleuse qui est la QPC, les questions prioritaires de constitutionnalité. Laurent Fabius est président du Conseil constitutionnel. Et là, Sarkozy est assez estomaqué parce qu'il a l'impression, en entendant Laurent Fabius, que c'est finalement une réforme que Laurent Fabius aurait fait passer. Sauf que, et c'est ce que raconte Nicolas Sarkozy dans le livre, c'était la réforme constitutionnelle de 2008 à laquelle tous les socialistes se sont opposés, sauf un, Jack Lang, qui a permis l'adoption de cette réforme. Donc il ne s'est pas privé de lui rappeler et il a vu à la tête de Laurent Fabius que Laurent Fabius n'était pas habitué à ce qu'on lui réponde comme ça.
Allez, on parle de ce livre encore dans un instant, Le temps des tempêtes aux éditions de l'Observatoire. On va parler de sa campagne, on va parler de ses discours, on va parler de la vie privée aussi qui est venue quelque part masquer un peu son action politique. Et puis on va vous écouter également au 39-21. A tout de suite.
18h41, la suite de notre débat d'actu dans ce grand journal du soir avec vous Thierry Daviral et nos grandes voix. Ce soir, Karl Meus du Figaro Magazine et Philippe Mabille de La Tribune. On continue à parler du livre Surprise de Nicolas Sarkozy. Vous pouvez bien sûr commenter, réagir et poser vos questions au 3921, le standard d'Europe 1. On vous attend.
Et c'est justement ce qu'a fait Dominique qui nous appelle au 3921 de Corse.
Bonsoir Europe 1, bonsoir les grandes voix.
Alors vous, c'est intéressant parce que vous étiez à la signature de Nicolas Sarkozy cet après-midi en Corse, à Ajaccio.
Je n'étais pas à la signature, mais je crois qu'il a eu l'excellente initiative d'écrire ce livre, Le temps des tempêtes, la tempête immobilière qu'il a annoncée depuis, si je ne m'abuse, depuis le Var en 2008. Et qui a débouché sur une crise économique. Et lui et son gouvernement ont su justement faire en sorte que cette crise économique soit supportable.
Tout à fait. Karl Meus.
Oui, c'est, Dominique fait référence au meeting de Toulon. C'est-à-dire que dès qu'il sent que ça part un peu en vrille avec la crise des subprimes aux États-Unis et que les banques françaises commencent plus avoir d'argent. Et là, il fait un grand discours à Toulon parce que c'est ce qu'il dit dans le livre. Il y a deux éléments importants. Il dit qu'il faut absolument que je dise la vérité aux Français. Ouais. Si je commence à cacher des choses. Et c'est là où ça rentre en résonance avec ce qui s'est passé sur la crise, l'épidémie. C'est que les Français ont eu l'impression qu'on leur cachait des choses. Ça, Nicolas Sarkozy a tout de suite dit je dis la vérité. Et deux, je vais faire en sorte que les Français ne perdent pas d'argent, qu'ils puissent, qu'on garantisse les dépôts. Et c'est là qu'il raconte. Alors, c'est très intéressant aussi. Là, il parle sous le contrôle de Philippe Mabille qui a vécu ça de près. Il dit l'administration bloquait. C'est-à-dire que quand il a dit on va garantir tous les dépôts, le premier réflexe de Bercy, c'est de dire oui, mais jusqu'à un certain montant. Alors, voilà. Si on met un montant, c'est plus la même chose.
C'est clair qu'il y a un vrai parallèle à faire avec la crise du Covid, avec Macron qui décide et les milliards qui pleuvent sur la France pour essayer de limiter les dégâts d'une crise où on a arrêté le pays pendant 2 mois et avec des conséquences sociales dramatiques.
De parole,
et
certes,
en 2008, on l'a oublié, mais cette crise qui n'était pas née d'une épidémie, mais d'une épidémie des subprimes, donc de crédits accordés de façon complètement dingue aux États-Unis. Nicolas Sarkozy prend complètement le contre-pied des Américains. Vous vous souvenez, la faillite de Lehman Brothers qui diffuse le virus de la crise financière dans le monde entier. Il raconte force détail, quand il a dû sauver le Crédit Local de France, il a été réveillé en pleine nuit, il avait quelques heures pour décider de mettre des milliards pour empêcher le Crédit Local de connaître le même sort. Donc c'est ça le capitaine Tempête, c'est savoir prendre des décisions. Et il faut reconnaître, c'est vrai que Nicolas Sarkozy, sur cette crise, a joué vraiment un rôle, jusqu'à le livre se termine sur la création du G20, qui a été souhaité par Nicolas Sarkozy, pour essayer de remettre un ordre international. Et puis, c'est vrai que le discours de Toulon, c'est vraiment une critique du capitalisme. Et on sait que cette crise du capitalisme, elle conduisait à changer un peu de paradigme économique.
Karl Meus.
Aujourd'hui, on parle du G20, ça a l'air normal, facile, mais il raconte... il faut convaincre Angela Merkel.
C'est ça.
Il y a un portrait d'Angela Merkel qui est formidable, mais qui raconte que Angela Merkel, elle a besoin de prendre du temps, elle a besoin de convaincre ses alliés. Il ne faut pas la brusquer. Donc il a appris à la contourner. Ouais. Et puis surtout, il a George Bush, qui est président, qui termine son mandat et qui dit « Non, mais je peux pas prendre ces initiatives-là, c'est à mon successeur de le faire. » Et Nicolas Sarkozy qui doit le convaincre, qui passe une journée à essayer de le convaincre, et dire « Mais si on ne le fait pas maintenant, après, ça sera trop tard. »
Merci à vous Dominique de nous avoir contacté depuis la Corse. Justement, vous parliez d'Angela Merkel, relation très forte, il en parle dans ce livre avec Angela Merkel, la chancelière allemande, très tendre également.
Oui, alors c'est pas évident parce qu'ils se connaissaient pas du tout au départ. Ils sont deux tempéraments totalement opposés. On a un Nicolas Sarkozy qui veut aller vite, qui n'hésite pas à bousculer l'ordre établi, et une Angela Merkel beaucoup plus souple, qui ne peut pas prendre des décisions. C'est pas le président de la République, elle est chef d'un gouvernement la plupart du temps après avec coalition, donc elle doit en référer à ses alliés. Ce sont les lenders aussi qui ont des pouvoirs. Et ils arrivent à nouer une relation parce que Nicolas Sarkozy comprend qu'il faut y aller doucement, donc il faut la contourner. Et elle lui dit à un moment, il y a cette page, c'est assez amusant, elle lui dit regarde ce film, La vie des autres.
C'est ça, oui.
C'est
il y a
mon
un échange
histoire.
De DVD entre eux.
C'est moi. Parce que c'est une femme qui vient de l'Allemagne de l'Est.
Qui raconte
et elle
son
lui dit
parcours.
Voilà ce que j'ai vécu, tu comprendras mieux. Ouais. Et c'est ça qui est vraiment intéressant parce qu'il raconte ces anecdotes-là. Il y a d'autres anecdotes avec Vladimir Poutine qui sont aussi assez impressionnantes.
Et étrangement, la relation avec Obama, Barack Obama, n'est pas aussi bonne que cela.
Non, alors le livre ne l'aborde pas encore parce que ça s'arrête au moment du G20 2008. Donc
mais dans la conversation que vous avez eue avec lui, il était plus proche de Bush Oui, hein, que voilà. D'Obama.
Parce qu'il y a un lien qui s'est créé avec, avec Bush, ouais. Lors d'un voyage aux États-Unis en 2007. Puis ensuite, voyage là qui tient vraiment à cœur à Nicolas Sarkozy quand il va à Washington faire cette visite et qu'il parle devant le Congrès. Que, bon, voilà, là, mm-hmm. il est assez impressionné. Obama, il raconte qu'il le voit avant. Quand il est sénateur, quand personne vraiment ne mise sur lui, bon, il se rend compte, il sent là qu'il y a quand même un potentiel et vraiment une ambition. Mais le lien n'est pas évident, hein, parce qu'Obama ne se livre pas facilement non plus.
Un mot avant de marquer une pause sur les discours. Ça commence mal. Il y a le fameux discours de Dakar. On est le 26 juillet 2007. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire. Ça part assez mal. En tout cas, ce petit bout de phrase est mal interprété, mal compris.
Oui, alors il y a aussi le problème de Nicolas Sarkozy avec celui qui écrivait ses discours, hein, qui était donc Henri Guénaud. Et qui a fait une carrière politique derrière, qui était un souverainiste, ouais. Était quelqu'un qui avait effectivement, je dirais, une vision de la France et pas forcément sur la même ligne que celle où on pouvait imaginer qu'allait être Sarkozy. Et c'est vrai que le Sarkozy de cette époque était maître dans l'art des contre-pieds. Donc il fait l'ouverture avec les écolos, avec le Grenelle de l'environnement. Puis après, il se rend compte que ça va trop loin. Donc l'écologie, ça commence à bien faire. Sur l'Afrique, effectivement, là, il fait une maladresse. Cette phrase est sortie peut-être de son contexte, mais elle est complètement...
Et ça fait polémique.
Évidemment, elle lance la polémique. Mmh. Et puis, il y a effectivement un Henri Guénaud qui a une vision très gaullienne, très la grandeur de la France. Alors, avec ce côté, effectivement, parfois, ça tombe très juste. Ouais. On citait tout à l'heure, tu citais le discours de Toulon. Le discours de Toulon est considéré comme un grand discours de Nicolas Sarkozy qui, effectivement, replace la présidence dans la compréhension que la crise est vraiment très grave, que potentiellement l'économie mondiale peut s'écrouler et qu'il faut prendre des décisions immédiates et qui n'étaient pas du tout celles qu'on imaginait qu'un Sarkozy pouvait prendre à cette époque-là.
Allez, restez avec nous dans un instant, on va parler de sa campagne 2007 et puis de sa vie privée également. 3921 si vous voulez nous joindre.
Jusqu'à 20h, on va retrouver Thierry Dagiral, vous êtes avec nous, c'est le grand journal du soir. Et place aux grandes voix, c'est la dernière partie avec vos invités Thierry. Ce soir, Philippe Mabille de La Tribune et Karl Meus du Figaro Magazine.
Bien sûr, et on parle de ce livre, hein, Surprise, le temps des tempêtes, qui vient de sortir aujourd'hui, signé Nicolas Sarkozy. En 2007, il fait campagne sur la rupture, sur l'après Chirac. Il arrive au pouvoir, il fait rentrer dans son gouvernement, on s'en souvient, des gens de la gauche. Et sa base se sent complètement trahi, Karl Meus.
Pas toute sa base. Si on regarde sa cote de popularité, il a quand même toujours gardé son noyau dur.
Ouais.
Alors, Philippe Mabille citait cette fameuse phrase de Patrick Devedjian sur le thème « Je suis pour l'ouverture, mais jusqu'au sarkozyste
ouais. ».
Il revient là-dessus dans son livre. Il ne renie pas du tout l'ouverture. Au contraire, il dit si c'était à refaire...
Mais Bernard Kouchner, par exemple, l'a beaucoup déçu.
Oui, mais tous l'ont déçu.
Ouais.
Mais il ne leur demandait pas de devenir sarkozyste. Au contraire, lui, ce qui l'intéressait, c'est qu'ils viennent avec leur identité de socialiste. Parce que c'est ça qui élargissait. Il a toujours considéré... Il n'a pas cette image-là auprès d'une partie de la presse et même de l'opinion. C'est qu'il a toujours considéré qu'il ne fallait pas que ce soit un seul clan qui gouverne. Il a beaucoup souffert de l'élection de Chirac, 1995, où la première décision, c'est tous les baladuriens aux mines de sel. Résultat, on arrive en 97, obligé
de dissoudre. C'est comme ça qu'il s'est créé. Il a écrit son fameux livre Libre, et c'est comme ça qu'il a pris son indépendance, justement. Et
Philippe
Mabille.
Mais il ouvrira même après aux Chiracains, puisque Benoît rentrera en 2010.
Nicolas Sarkozy, dans son livre, il l'écrit « Je ne suis pas allé assez loin dans la rupture économique ».
Oui, je pense que ça, c'est un regret, mais on peut constater qu'il y a une forme de malédiction de l'Élysée. On dit souvent la malédiction de Matignon, mais c'est-à-dire qu'aucun président depuis François Mitterrand, et encore, il était sous la cohabitation, ne s'est fait réélire dans l'exercice de son mandat. Et c'est vrai de Sarkozy, c'est vrai de Hollande, on ne sait pas si ça sera vrai d'Emmanuel Macron pour 2022. Et effectivement, il y avait une volonté, vous citiez Chirac, Sarkozy voulait parler de roi fainéant, disait, il faut vraiment, on a eu une décennie inutile avec Chirac, donc il voulait vraiment, je crois, bien faire. Donc ce mot de rupture qui était dans sa bouche quelque chose d'assez, je pense, sincère, ça s'est arrêté assez vite parce que, souvenez-vous, la réforme de l'université qui était portée par Valérie Pécresse, aujourd'hui la présidente de la région Île-de-France. Elle a essayé de la faire, et puis à un moment donné, elle se heurtait et au mandarin et à l'ensemble d'un système qui disait on n'avait pas intérêt à la réforme. Donc il a essayé d'aller le plus loin possible, et puis ensuite il y a eu la crise. Donc ce deuxième temps du quinquennat, et on l'a vu, ça a été vrai pour Sarkozy entre la crise 2008, ça a été vrai pour Hollande qui n'a pas réussi toutes ces réformes. Et c'est vrai aujourd'hui pour Emmanuel Macron qui est entravé par cette crise mondiale.
Un mot rapide de sa vie privée, son divorce d'abord d'avec Cécilia. Il fallait mettre un terme à une situation qui pouvait virer au ridicule à tout moment. Il y a eu ensuite l'épisode, bien sûr, Carla Bruni. On a le sentiment d'un président qui n'est pas aux affaires. Il écrit « En France, afficher son bonheur est aussi mal vu que d'afficher sa richesse. » Ça a abîmé le début de son quinquennat.
Oui, très clairement. Alors là, on évoquait les codes de popularité. On voit bien qu'à partir de janvier 2008, sa cote de popularité dévisse. Et c'est le moment où il met en scène son histoire d'amour avec Carla. Les Français qui n'ont pas tout suivi, ils ont vu le divorce, comme il dit, ça arrive à des millions de Français, mais peut-être trouvent que c'est un peu rapide. Ouais. Et pourtant, c'est l'histoire d'une vie. La preuve en est, c'est qu'ils sont toujours mariés avec un enfant et qu'au fond, tout ça c'est fait presque naturellement, mais il ne fallait pas qu'il l'affiche et pour le coup, il le reconnaît.
Vous êtes nombreux à nous appeler au 39-21. On va laisser la parole à Antoine qui nous appelle de Toulon. Bonsoir Antoine.
Bonsoir à tous et à toutes.
On vous écoute avec plaisir.
Voilà, j'ai été moi aussi un petit peu surpris par la sortie de ce livre. Mais ce qui me surprend encore plus, c'est la possibilité de faire un lien entre ce qu'a connu comme crise M. Sarkozy et ce qu'a connu comme crise M. Macron.
Ouais,
j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à faire le lien entre les deux. Pour moi, c'est deux univers complètement différents. Et la seule chose que je peux me dire, c'est que finalement, tous ceux qui passent par l'Élysée ont du mal à ne plus exister. Mmh. Et je trouve ça dommage de la part de M. Sarkozy de vouloir absolument exister avec des histoires qui n'ont peut-être plus rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Je ne veux pas être trop dur, mais je n'arrive pas à faire le parallèle entre les deux crises.
Merci. Merci Antoine de nous avoir contacté au 39-21. Carl Meius, on va répondre à Antoine. C'est vrai qu'il y a des similitudes. Selon vous, il y a des similitudes? Antoine dit pas tant que ça.
Alors, Antoine a raison. Les crises sont totalement différentes. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment un patron à l'Élysée réagit face à une crise. Et en l'occurrence, là, on sait que Emmanuel Macron a téléphoné à plusieurs reprises à Nicolas Sarkozy pour savoir, pour avoir des conseils. Et Nicolas Sarkozy, pour le coup, c'est ce qu'il nous a dit quand on l'a vu. Il a dit, moi, je ne veux pas donner de leçons, je n'aime pas en recevoir, donc je ne vais pas commencer à en donner. En revanche, quand Emmanuel Macron m'a appelé, je lui ai dit, voilà, moi, dans telle situation, voilà ce que je ferais.
Ouais.
Et ensuite, c'est à lui de décider. Il se trouve...
Mais il vous le dit à vous, par exemple, Castex, le casting de ce nouveau gouvernement, c'est quand même clairement derrière des conseils de Nicolas Sarkozy.
Alors, pas complètement. C'est pas tellement dans le casting, parce qu'au fond, les noms que Nicolas Sarkozy avait poussés, Macron ne les a pas repris. Mais c'est dans l'architecture. Ce que Nicolas Sarkozy a conseillé à Emmanuel Macron, c'est évidemment, un, de se séparer d'Édouard Philippe pour faire un rebond, mais deux, surtout, d'avoir un gouvernement resserré et que le président soit au centre du dispositif. C'était ça, au fond, le plus important, c'était l'architecture, plus que les hommes. Mais quand même, à avoir à Matignon quelqu'un qui soit le relais immédiat.
Ouais.
Et on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure avec Philippe Mabille, c'est que pour qu'une réforme se fasse, il faut que le président de la République soit à 120%. S'il n'est pas à 120%, derrière l'administration, derrière les ministres, la réforme ne va pas se faire parce que ça va se perdre dans les méandres, parce qu'il y en a un qui va commencer à mettre un amendement, qui va commencer à détricoter le truc, et du coup, ça part dans les sables.
La question, elle est bateau, mais on va terminer là-dessus. 5 secondes chacun. C'est le livre d'un retour?
Non, c'est le livre d'un recours. Je vais peut-être être un peu plus long que 5 secondes parce qu'il nous l'a dit, c'est pas le livre de la construction d'une carrière. Il ne veut pas qu'on parle de retour politique.
Ouais.
En revanche, quand on dit c'est le temps des tempêtes, j'ai été un capitaine qui a affronté des tempêtes et ça a marché, on se place en situation de recours tout en se disant ça peut ne pas arriver.
Philippe Mabille, 4 secondes.
Ouais, j'aime bien le mot recours, effectivement. Il faut savoir quand même que pour Nicolas Sarkozy, 2020 va être une année compliquée. Il y a sur le plan judiciaire, il y a l'affaire des écoutes qui sera jugée d'ici la fin de l'année. Il y a deux autres affaires, Big Malion, l'affaire libyenne, avec, vous vous souvenez, l'affaire des fadettes qui ont été écoutées jusqu'à Éric Dupond-Moretti, aujourd'hui garde des Sceaux. Donc effectivement, c'est probablement un livre qui lui permet de prendre date avec les Français. Est-ce que c'est pour revenir? Je ne sais pas, mais... C'est-à-dire, en politique, on dit souvent, on n'est jamais tout à fait mort.
Le livre de Nicolas Sarkozy est sorti en librairie aujourd'hui. Merci à vous, messieurs.
Merci.
Merci beaucoup.
Europe 1. À suivre, Thierry de Giral.
Dans un instant, le journal de 19h, on sera au Stade de France, à 2h maintenant du coup d'envoi de la finale de la Coupe de France PSG Saint-Étienne. À tout de suite.
Europe 1.